La foi chrétienne en Afrique de l'Ouest, tel est le thème de la conférence que vous allez pouvoir suivre dans un instant. Elle était présentée par le père Sylvain Dansou, curé de la paroisse de la Sainte Famille, une conférence enregistrée le 6 mai dernier à la Bibliothèque de Culture Religieuse de Pau. Nous écoutons le père Sylvain Dansou.
Alors le diocèse dans lequel nous sommes, le diocèse de Bayonne, Lesca et Oloron, a un lien fort avec l'Afrique. Et plus particulièrement avec l'Afrique de l'Ouest, d'où je viens. Alors, je voudrais rappeler que le cardinal Lavigéry, que vous connaissez sans doute, dont la statue est à Bayonne, qui est né en 1825, dont on a célébré l'année dernière les 200 ans de sa naissance, a été essentiellement l'un des grands missionnaires, l'un des grands évangélisateurs de l'Afrique. Au moins, la famille religieuse qu'il a fondée, qu'on appelle les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique. Alors, j'ajoute à cela les pères originaires de ce diocèse de Bayonne qui ont contribué fortement à l'évangélisation de l'Afrique. En particulier, de la Côte d'Ivoire, où je suis né et d'où je viens. Comme rappelé tout à l'heure, je suis béninois. Mon passeport, il est béninois. Alors donc, c'est de cette église de l'Afrique de l'Ouest, évangélisée par les pères missionnaires venus d'ici, que je veux parler. De cette église d'Afrique de l'Ouest qui regroupe globalement 16-17 pays. Mais ce que j'ai dit de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez l'appliquer généralement à l'Afrique subsaharienne. Voyez, toute l'Afrique subsaharienne, excepté l'Afrique du Nord. Il y a 54 pays en Afrique. Les réalités de l'Afrique du Nord ne sont pas celles de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre, de l'Afrique du Sud. Je vais essentiellement parler de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, globalement, quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, vous y percevez tout ce qui se vit en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, parce que ce sont essentiellement les mêmes réalités sur le plan de la foi. Alors, pour revenir à l'Afrique de l'Ouest, il faut noter qu'il y a une vitalité de l'Église d'Afrique de l'Ouest. La démographie est galopante, à plus de 3% d'augmentation par an. 60% des habitants ont moins de 25 ans. Il y a 5% de baptême par an. Le clergé de cette Afrique de l'Ouest, c'est 60 000 prêtres, ce qui constitue un élément structurant pour cette église. Il y a plus de 70 000 écoles et hôpitaux et dispensaires tenus essentiellement par les hommes et les femmes d'église, des religieux, des laïcs, des prêtres, des missionnaires. Je rappelle ce que certains papes disent de l'Afrique. Le pape Paul VI, lors de sa première visite en Afrique, qui coïncide avec la première visite d'un pape en Afrique, c'est en 1969. C'était en Ouganda et le pape Paul VI disait ceci: « Africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. » J'y reviendrai. Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique post-synodale « Ecclesia in Africa », promulguée à Yaoundé en 1975, écrit: l'Afrique est l'espérance de l'Église. L'Afrique doit jouer un rôle dans la nouvelle évangélisation mondiale. Elle est appelée à devenir une nouvelle patrie du Christ, une force spirituelle pour l'Église universelle. J'insisterai sur le mot « nouvelle patrie ». Après, le pape Benoît XVI, au Bénin, chez moi, en 2011, écrit ceci: l'Afrique constitue un immense poumon spirituel pour une humanité en crise de foi. Le pape François au Kenya en 2015, l'Afrique a une richesse humaine et spirituelle immense à offrir au monde. Le pape Léon XIV, très récemment et en conclusion de son voyage en Afrique, dit ceci: je quitte l'Afrique avec un trésor inestimable de foi, d'espérance et de charité. Comme au premier siècle de l'Église, l'Afrique est appelée à apporter aujourd'hui une contribution décisive à la sainteté et au caractère missionnaire du peuple chrétien. Alors, j'essaie ici une brève contextualisation. Il y a un héritage missionnaire qui est à préciser. Tout part de la fin du 19e siècle. Pour ce qui est de l'évangélisation et du Bénin et du Togo et du Sénégal et du Burkina, Mali, tous ces pays-là, 17 au total, que je regroupe. Et l'évangélisation a été essentiellement, comme rappelé, le fait des missionnaires venus d'ici. Mais le premier contact avec l'évangile, c'était déjà au 14e, au 15e, 16e siècle. Je mets en parenthèse tout ce qui a été vécu au premier siècle de l'Église, avec Saint Augustin, Saint Ponique, Saint Perpétue et Félicité, tous ces saints, Saint Antoine du désert, tous ces saints du 4e, 3e, 4e, 5e siècle qui ont essentiellement vécu en Afrique du Nord. Là, je suis en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest. Tout part à la fin du 19e siècle avec les Pays Blancs et les Esima. Mais il y a eu une incursion missionnaire au 14e, 15e, 16e siècle. Cela n'a pas vraiment porté du fruit parce que c'était l'incursion des troisièmes, les militaires, les marchands et les missionnaires. Ça n'a rien donné. Les missionnaires qui accompagnaient les marchands n'y étaient pas pour porter la bonne nouvelle de la libération, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils étaient là simplement pour accompagner les marchands, des esclaves, et d'être leurs confesseurs, de baptiser leurs enfants, et puis de donner un peu de Bible aux nègres. Cette mission-là n'a pas porté de fruits du tout. Ça a laissé des D'Acosta, des De Campos, des D'Almeida, et de tous ces noms portugais qu'on retrouve aussi bien au Bénin, au Ghana, au Togo, au Sénégal. Il y a des D'Almeida, des De Campos, des ressources au Bénin, au Togo, au Sénégal, qui sont des descendants de ces Portugais-là. Mais essentiellement, la fin du 19e siècle a été l'éclosion de l'évangile bonne nouvelle qui libère l'homme et tout homme. Mais n'oublions pas, il y a eu un événement décisif. C'est cette encyclique du pape Pie XII, Fidei Donum, le don de la foi. C'était en avril 1957. Dans cette encyclique, le pape demandait à l'Église d'Europe, à l'Église d'Amérique, d'aider activement l'évangélisation de l'Afrique. Nous sommes en 1957. Rappelons qu'il y a eu 50 ans d'évangélisation depuis l'arrivée des Pères Blancs, des SMA, les Spiritains aussi, les SMA, les Sociétés des Missions Africaines de Lyon. Là aussi, une congrégation fondée par un évêque français, Marion de Brésillac. Vous voyez tout ce que nous devons à la France en particulier, à l'Europe, dans cet accueil de l'Évangile. Alors le pape demande aux Européens, aux Américains, d'aller porter la bonne nouvelle aux Africains. D'aller former l'Église d'Afrique. C'est cet appel que beaucoup de congrégations ont entendu et sont parties en Afrique. En 57, Fidei Donum, 2 ans après, les pères de Bétaram sont en Côte d'Ivoire, 1959, en écho à Fidei Donum. Donc, 1957, les missionnaires, toutes ces congrégations religieuses ont tellement bien travaillé dans l'annonce de l'Évangile, dans la formation d'un clergé local, que 12 ans après, le pape Paul VI dit « Africains, soyez vos propres missionnaires ». Voyez, 12 ans après, c'était comme si le pape rappelait « Vous avez fait votre devoir, désormais il reviendra aux Africains d'être leurs propres missionnaires. Vous, allez ailleurs, sur d'autres chantiers, là où Jésus a besoin d'être connu lui aussi. » J'annonce en 3 parties la réflexion, le partage de ce soir. 3 parties. Dans un premier moment, je vais parler de la foi chrétienne en Afrique de l'Ouest comme histoire, richesse et dynamisme. 2e moment, mon expérience chrétienne et missionnaire en France, chez vous. Et dans un 3e moment, puisque vous avez des prêtres africains chez vous, et de plus en plus, certains se demandent pourquoi sont-ils là, qu'est-ce qu'ils font, pour combien de temps, et puis combien de temps, quand vont-ils retourner chez eux? Il y a certains qui se demandent. Donc, je parlerai dans un dernier moment de la présence des prêtres missionnaires dans la réalité française comme un rendez-vous du don, où l'Église se donne, circulation de la grâce, circulation de la vie. Passons au premier moment. Les origines et l'enracinement de la foi chrétienne. J'ai parlé des premières évangélisations de ces missionnaires européens, de toutes ces congrégations qui ont formé des prêtres, des catéchistes. J'ai parlé du rôle des écoles catholiques, dispensaires et œuvres sociales, parce que en réalité, toutes ces œuvres sociales n'étaient pas le fait de l'État. L'État était presque absent dans ce milieu éducatif, dans le milieu sanitaire. L'État était absent. Et l'Église a suppléé là. Les premières écoles qui ont formé aussi bien les intellectuels africains étaient le fait des congrégations. Nos premiers présidents de la République en Côte d'Ivoire ont fait les écoles chrétiennes, les BIA que vous connaissez, hein, parce que le pape Léon a parlé en sa présence. Hein. Paul Biya, le président du Cameroun, qui a 94 ans, il a fait le séminaire. Tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest en particulier, même de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, ont fréquenté des établissements tenus par des religieux, tenus par l'Église. Donc, rôle des églises catholiques, dispensaires et œuvres sociales, le fait des communautés religieuses, le fait des congrégations, le fait de l'Église. Après, passage d'une Église reçue à une Église incarnée localement. Les missionnaires qui venaient en Côte d'Ivoire n'avaient pas d'abord pour but les congrégations de recruter pour leur congrégation. Paul VI, plutôt, Pie XII leur avait demandé en son temps de ne pas recruter pour leur propre congrégation. Les Dominicains, les Bétaramites, les Eudistes, toutes ces congrégations-là ne devraient pas recruter des jeunes Africains pour leur congrégation en France, en Europe. Il s'agissait de former d'abord le clergé local, au point où, je vous dis que Bétaram n'a ouvert les portes de la vie religieuse à des religieux africains qu'en 1987. Voilà. Alors qu'ils étaient en Côte d'Ivoire depuis 1959. Ils ont tenu les établissements catholiques, les collèges, les petits séminaires pour former le clergé local. Et beaucoup de congrégations ont fait cela. Il s'est agi aussi d'inculturer l'évangile, bonne nouvelle. Parce que n'oubliez pas qu'entre-temps, il y a eu le Concile Vatican II, où les portes de l'Église s'ouvraient à l'universel. Nos parents, ils ont chanté latin sans comprendre le latin forcément. Et on, de plus en plus, on réalise que mais le Seigneur ne pouvait pas nous parler chinois si on ne comprend pas chinois. Et donc, il fallait adapter la liturgie aux réalités socio-culturelles des Africains. C'est l'évangile qui devrait purifier nos cultures, nos traditions, et non l'inverse. Deuxième moment, les richesses spirituelles de l'Église ouest-africaine. Là, j'évoque la foi chrétienne en Afrique qui structure toute la vie socio-culturelle et politique de l'Africain. Tout est rattaché, tout est lié à la foi. On respire, on vit sa foi dans cette partie de l'Afrique. D'abord, le christianisme en Afrique n'est pas seulement une croyance individuelle. Il est collectif et visible. On n'est pas chrétien tout seul. Je n'ai pas seulement à sauver mon âme. Vous ne percevez pas en Afrique quelqu'un qui dit « Je suis chrétien, ça s'arrête là ». Non. Il est dans un mouvement, il est dans une association, il est dans un groupe de service lié à la paroisse, à l'église. Les églises rythment la vie quotidienne et hebdomadaire. Les rassemblements religieux, les cultes, les prières publiques ou les campagnes d'évangélisation occupent l'espace social. Tout. Vous voyez des magasins, des commerces qui portent Dieu béni, ma vie dans les mains de Dieu, tout est grâce, Deo gratias. Vous voyez les pompes funèbres qui sont appelés, par exemple, chemin vers le ciel, chemin d'éternité, chemin vers Dieu. Absolument tout est ordonné à la vie là-haut. Dans de nombreuses villes comme dans les villages, il est difficile de passer une journée sans entendre ou voir une manifestation de la foi. Des chants, partout on chante, vous passez à côté d'une église, il y a une répétition de chorale, il y a un groupe qui se retrouve pour prier, il y a une réunion à l'intérieur, c'est des rencontres de catéchisme, il y a des affiches partout pour annoncer une veillée religieuse, une campagne d'évangélisation, les médias, la radio catholique, la télévision nationale, tout passe là. Même le programme des obsèques de famille. On a annoncé à la télévision nationale les obsèques, le programme des obsèques de ma mère, par exemple. Et on dit, il aura Eucharistie, il aura messe, présidée par un tel, au terme de cette célébration. Je dis à la radio et à la télévision nationale. Cela montre que la religion fait partie du paysage social ordinaire. Ensuite, cette foi influence profondément les normes et les comportements sociaux. Les valeurs chrétiennes de solidarité, de pardon, de respect de la famille entre aides, façonnent les relations entre individus. Par exemple, les cérémonies de mariage, de baptême ou de funérailles sont très souvent organisées selon des rites chrétiens, même chez les personnes qui ne pratiquent pas régulièrement. Cela illustre que le christianisme agit comme un cadre culturel partagé.
Par ailleurs, la foi chrétienne joue un rôle important dans les institutions sociales. Beaucoup d'écoles, d'hôpitaux et d'organisations caritatives sont fondées ou gérées par des églises, comme rappelé tout à l'heure. Ces structures participent à l'éducation, à la santé et à l'entraide, ce qui renforce l'ancrage du christianisme dans la vie sociale. La religion devient ainsi un acteur du développement et du lien social. Il faut aussi noter son influence dans la sphère politique et publique. Les discours politiques font souvent référence à Dieu, même dans les lieux publics. Je me rappelle, c'était en 2006, j'étais avec l'abbé Dominique Nalix, que certains d'entre vous connaissent, au Bénin, et nous étions à un mariage civil, le mariage de mon grand frère, mon aîné, celui que je suis, à la mairie. Et le lendemain, c'était le mariage religieux. Le maire a tellement établi le lien entre le mariage civil et le mariage sacramentel, invitant les couples, les fiancés à mettre Dieu au cœur de leur vie de couple, au cœur de leur famille, que l'abbé Dominique me dit, mais écoute Sylvain, demain, il va falloir faire davantage que le maire. Si à la mairie on entend ce discours-là, à l'église, il faut pas faire moins. Il faut pas faire moins. Certains leaders religieux ont une forte influence sur l'opinion publique. Les hommes politiques cherchent parfois le soutien des églises, ce qui montre que la foi dépasse la sphère privée pour toucher la gouvernance. Enfin, le christianisme en Afrique est marqué par une inculturation. Il s'adapte aux traditions locales. Les chants, les danses, les langues et certaines pratiques culturelles sont intégrées dans les célébrations religieuses. Cela crée une forme de christianisme profondément enraciné dans les sociétés africaines au point de devenir une composante de leur identité. J'ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas nous parler chinois si nous ne comprenons pas chinois. Ce qui fait que, chez nous, dans beaucoup de réalités, on célèbre la messe dans la langue locale. Même si le français est la langue officielle dans beaucoup de ces états-là, de ces pays-là, la langue locale tient une place importante. Mon petit frère, qui est prêtre, célèbre à la fois en français, en minan, en fon, ce que moi, je ne peux pas, parce que j'ai pas grandi au Bénin, par exemple. J'ai fait des efforts énormes pour célébrer la première messe en langue, parce qu'il s'agissait d'aller célébrer dans le village maternelle. Ainsi dit que la foi chrétienne en Afrique est une réalité sociologique, signifie qu'elle ne se limite pas à une croyance personnelle, elle structure les pratiques sociales, influence les institutions, façonne les mentalités et imprègne la culture. Elle devient un élément constitutif du fonctionnement global de toute la société. Cela se manifeste par la vitalité des célébrations liturgiques. Pour nous aussi, une église qui vit, c'est une église qui chante. Cela se manifeste par la place des communautés de base. Les communautés de base sont des églises domestiques, des églises de quartier, où des gens se retrouvent pour former un noyau important de partage, de réflexion. Et c'est une rencontre par semaine où riches et pauvres se retrouvent ensemble pour partager le même évangile, pour partager ce qui fait leur vie de foi, leur expérience de Dieu. Forte culture de la prière et de la messe. En Afrique, on prie beaucoup et on va beaucoup à la messe. On prie beaucoup, il y a beaucoup d'associations, de mouvements, associations, et le lien à la messe, à la communion eucharistique est très fort. Vous pouvez pas imaginer un chrétien qui ne va pas à la messe le dimanche. Déjà en semaine, les gens y vont. Les églises sont pleines en semaine. Les églises sont pleines en semaine. Les dimanches, on n'en parle pas. Il y a certaines paroisses où la messe du dimanche, c'est 4, 5, 6, 7 messes par jour le dimanche. Je vous montrerai tout à l'heure des images. Oui. La vie est impossible sans la communion eucharistique. Pauvres et riches se retrouvent tous ensemble. Et puis, le sens de la famille, le sens de la solidarité, du partage. Pour revenir sur le sens de la famille, on prie en famille. C'est une habitude. Une famille qui ne prie pas, c'est une famille qui meurt, qui se détruit. Moi, je vous assure, même prêtre, quand je vais en vacances, qu'il y a papa, qu'il y a maman, ma prière des offices, c'est une prière personnelle. Quand j'ai prié mon office des Lodes, je retrouve papa et maman pour faire la prière de famille, aussi bien le matin que le soir. Dans beaucoup de familles, les parents invitent les enfants à prier avec eux. Évidemment, éveil des vocations sacerdotales et religieuses. Il y a un moment où on a connu un bon nombre de présences de vocations. Cela diminue, et de plus en plus, on le sent nous aussi. Moi, quand j'étais entré au séminaire, nous étions peut-être 30, 35 en première année de philosophie. Mais là, aujourd'hui, on a des séminaires où il y a 20, où il y a 15 séminaristes en première année de philosophie, et puis tous n'arrivent pas. On a connu des moments, des périodes où il y avait 50, 60, 80 séminaristes dans une province ecclésiastique. Et là, on est en train de sentir d'une certaine façon une régression. À un moment donné, il y en avait tellement que les évêques réduisaient les entrées au séminaire. On disait pour cette année, nous ne prenons que 5 séminaristes. Donc, si les 5 séminaristes arrivent au bout du cycle, en théologie ou à l'ordination, peut-être 3. Parce que sur le chemin, 2 ont trouvé un autre chemin. Évidemment, pour ne pas que la vocation ou bien le sacerdoce soit un lieu de refuge, de plus en plus, dans nos séminaires, on y entre avec la licence, au moins. Pour que, quand ça ne va pas, on soit pas obligé de persévérer, quand bien même on ne sent pas l'appel. Voilà ce qui fait la richesse spirituelle d'une église qui est l'église ouest-africaine. En image, vous voyez un programme du mercredi de carême, mercredi décembre. La messe commence à 5h30. Et il y en a combien dans la journée? 5h30, une messe, 6h30, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 19h, 30, 20h, 50 et 22h. Ça, c'est une paroisse. La paroisse Saint-Jean-Paul II, c'est à Abidjan, Cocody. Je passe là. Une autre paroisse, Saint-Joseph, artisan de la Riviera, Bonoumé. Carême, mercredi décembre. Voyez le programme des messes, on commence à 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h15, 15h, 16h30, 18h. C'est à la chapelle à 18h. Ça veut dire que toutes les autres messes sont dans l'église paroissiale. Et la dernière est à 20h30. Je rappelle que le mercredi décembre en Côte d'Ivoire n'est pas un jour Ferrier. Troisième paroisse, mercredi des cendres, paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, Riviera Palmeraie. Horaire des messes, donc c'est le 18 février 2026, hein, c'est récent, hein. 6h, 10h, 15h, 19h, 7h30, 12h30, 17h, 20h30. Et c'est pas, ce ne sont pas des célébrations pour 20, 30, 40 personnes, hein. Et à côté de cela, il y a les chemins de croix, qui ne sont pas facultatifs, hein, le vendredi de carême, hein. Le vendredi de carême, les chemins de croix ne sont pas facultatifs, hein. C'est un devoir et beaucoup d'hommes et de femmes vivent cette expérience pour entrer dans la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième paroisse, Notre-Dame de la Tendresse. Vous avez là aussi des horaires. Ça commence à 5h du matin. Imaginez un seul instant que je vous programme ici à la Sainte Famille une messe à 5h du matin. Ou à 6h, ou à 7h. Je suis sûr d'une chose, il n'y aura personne. Voyez? Voilà. Au milieu de tout cela, au milieu de cette effervescence, au milieu de cette vie, il y a des défis. Il y a des fragilités. Il y a des défis actuels. Comme défi, je note la pauvreté. L'Afrique est un continent appauvri, disons comme cela. C'est pas un continent pauvre. C'est un continent appauvri parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses dans ce pays-là. Évidemment, la première richesse est le humain. C'est d'abord l'homme qui est un capital humain inestimable, qui est une valeur inestimable. Et puis, il y a toutes les autres richesses. Malheureusement, dans le partage de ces richesses, il y a un gap. Il y a une minorité de personnes riches, immensément riches, en lien avec quelques amis européens ou avec les multinationales qui s'en prennent plein les poches. Et puis à côté, il y a des pauvretés. Il y a un syncrétisme religieux. Parce que certains disent en Afrique, deux protections valent mieux qu'une. Oui, votre Jésus, quelquefois, on ne le voit pas. Mais le vaudon, le féticheur, lui, on le voit. Il nous donne un bracelet, une amulette qu'on attache à la ceinture, au pied. On ne sait jamais, il nous protège d'un accident. Et donc, la foi fait face à un défi. Il s'agit d'annoncer que Dieu et Dieu seul suffit. Que c'est lui, l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique vie. Voyez, syncrétisme. On a un tonton du village théologien qui a écrit Christologie au village. Pour dire qu'il y a certains chrétiens catholiques, ils sont chrétiens le jour et puis la nuit, ils vont à leur fétiche. Je note aussi comme un défi dialogue interreligieux parce que, oui, il s'agit de faire vivre beaucoup de communautés parce que il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des adeptes de ce qu'on appelle la religion traditionnelle africaine. Par exemple, les gens du Vaudou au Bénin, ou bien ceux du Poro, et dans tous les pays, il y a des religions traditionnelles africaines auxquelles des hommes et des femmes sont encore attachés. Et ce sont ceux-là qui reviennent assez aisément à la foi chrétienne, à qui l'Évangile fait comprendre qu'il s'agit de ceux qu'ils appellent, par exemple, le Dieu des tonnerres, le Dieu de la lagune, le Dieu de la forêt. En réalité, il faut voir l'unique Dieu, qui est le Dieu de Jésus-Christ, manifesté en la personne de Jésus, mort et ressuscité. Ceux qui se convertissent, ce ne sont pas forcément les musulmans. Ce sont les gens de la religion traditionnelle africaine. Il y a une forte coexistence entre foi chrétienne et tradition ancestrale, j'en ai parlé, parce qu'on reste un peu attaché à nos racines, à des racines ancestrales. Et la mission de la foi, de l'Église, c'est de montrer Jésus, le Christ. Formation doctrinale parfois insuffisante comme défi. Ici, il y a les grands théologiens, les Henri de Lubac, les Chenu, c'est ici. On a nos théologiens, nos chercheurs, et de plus en plus, ben, il y a un défi d'enracinement de la foi chrétienne à partir du donné révélé. Hein? Une catéchèse approfondie où on dit l'essentiel. Hein? On fait comprendre ce qu'est la vérité de la foi dans sa radicalité et dans ses exigences. Alors, je note aussi comme défi l'instabilité politique dans beaucoup d'États. Vous avez entendu le pape Léon parler à ses chefs d'État corrompus qui restent au pouvoir 30, 40 ans quelquefois. Vous voyez, la corruption gangrène toute l'élite politique. Radicalisation religieuse dans certaines régions, essentiellement dans les régions du Sahel. Le Mali, le Burkina, le Niger, on n'a pas ça en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça au Bénin, au Togo. Les musulmans, les chrétiens vivent ensemble et dans une parfaite communion, évidemment dans le respect de la spécificité de ce que chacun est. Former des chrétiens solides, et de plus en plus, bon, mais on a des écoles de formation de théologie pour les laïcs dans les universités catholiques partout en Afrique de plus en plus. Faire émerger des saints africains contemporains. Voyez, en Afrique de l'Ouest, on a connu Saint Charles Luanga et ses compagnons, c'est en Ouganda. On a Sainte Anwarite, on a Sainte Joséphine Bakita. Mais quand on a 300 millions de fidèles qui vivent de la foi, je crois qu'au milieu de ces 300 millions de fidèles africains, il y a aussi des saints qui ont besoin d'être connus. C'est vrai, le pape François parle des saints anonymes ou des saints de la porte d'à côté. Mais il y a des témoins qui donnent leur vie pour la propagation de la foi catholique. Nous avons nos martyrs. Et très récemment, l'année dernière, il y a Floribert qui a été béatifié. Vous voyez? Voilà, on a des témoins. Et il y en a des Floribert, il y en a en quantité. Parce que dans des états corrompus, il y a des témoins de l'évangile qui manifestent jusqu'au bout la vérité de l'évangile. Autonomie de l'église et course à l'argent, c'est un défi aussi. C'est un défi pour l'église d'Afrique. Parce que l'église vit de l'Eucharistie, mais l'église vit aussi de l'argent. Imaginez une année sans quête. Même pendant le Covid, on a trouvé le moyen de faire la quête. Hein? L'église vit de l'argent. Et il faudrait pas que ce projet ecclésial puisse devenir un projet missionnaire, un projet pastoral où, pour des pasteurs, c'est essentiellement la course à l'argent. Et donc, il y a une attention, il y a une vigilance à ce niveau-là. Mais l'Église d'Afrique, c'est une Église généreuse, très généreuse même. Moi, je vois dans certains paniers, les quêteurs, là, j'ai quelques quêteurs, ils sont pas là, j'ai quelques quêteurs, quêteuses, qui observent que dans nos paniers des quêtes, il y a des fidèles qui mettent des centimes. En France, des centimes. Même dans nos pays d'Afrique, parce que il faut parler de l'argent, il faut pas avoir honte de parler. Jésus, il était là, et puis il y avait le tronc, il voyait ceux qui mettaient. Centimes. Souvent, il y a certains qui mettent des pièces là, des caddies là. Vous trouvez ça dans, parce que dans l'imaginaire africain, on peut pas se moquer de Dieu en mettant une pièce de caddie à la quête. On retrouve ça assez régulièrement. Ou bien des pièces inusitées qu'on n'utilise plus, qui n'ont plus de valeur, on veut s'en débarrasser, et puis voilà, le panier de quête devient le lieu où on dépose ce dont on veut pas.
Ça n'existe pas, je dis.
Parce que, dans la conscience du fidèle, il dit, mais, je me moque de Dieu. Et les retombées de cela, on se moque pas de Dieu. Vous voyez? On se moque pas de Dieu. Voilà, il y a la générosité, mais il y a aussi la prudence et la vigilance. Alors, tout cela, pour revenir à mon expérience à moi, à mon expérience chrétienne et missionnaire chez vous. Un prêtre missionnaire africain en France peut vivre une expérience très riche, mais aussi contrastée. On peut regarder cela en trois dimensions. Les joies, les forces de l'Église et aussi ses fragilités. C'est le regard du missionnaire. Alors, les joies d'un prêtre missionnaire africain en France. La rencontre d'une autre culture, riche de son histoire. Une histoire marquée par l'histoire de la société française marquée par la sécularisation. Voyez? Échanger avec des fidèles venus d'horizons très divers. Afrique, Asie, Europe, c'est l'expérience qu'on en fait. On apprend une nouvelle manière de vivre la foi dans un contexte occidental. Sur la mission pastorale, on accompagne des paroisses souvent en manque de prêtres. On célèbre les sacrements et on redonne vie à des communautés parfois vieillissantes, plus ou moins vivantes. La joie de découvrir ce renouveau spirituel, ça depuis quelques années, à travers des demandes de baptême de plus en plus nombreux. On parle cette année de plus de 21 000 baptêmes à la vigile pascale d'adultes, augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. On se dit, mais il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas du fait des pasteurs, des laïcs engagés. On se dit, mais la moisson, elle est la moisson du Seigneur. Et que c'est sans doute Dieu lui-même qui est à l'œuvre. C'est lui qui travaille avec nos petits efforts. Parce que nous ne nous arrêtons pas pour autant. Il y a beaucoup de choses qui se vivent dans les paroisses, dans les églises de France pour susciter, pour accueillir, pour aller à la rencontre d'autres frères et sœurs. Il y a des parcours alpha, il y a d'autres parcours, tout cela pour rejoindre des personnes. Et puis, on est heureux d'être témoin de tout cela. Et puis, il y a des liens humains qui se tissent, des relations profondes avec des personnes souvent très attachées à leur prêtre. On le sent. On est aimé par les fidèles. Ils nous accueillent comme des frères. Et puis, on échange. Il y a des échanges fraternels, vrais. Dans le respect de la différence que chacun est, il y a des expériences de fraternité avec d'autres prêtres venus du monde entier. Quand je vois le diocèse de Bayonne, quelle richesse de voir tous ces prêtres français venus d'ailleurs. Quand je dis venus d'ailleurs, d'autres diocèses de France, d'autres localités, des prêtres venus du Vietnam, d'Haïti et de beaucoup de pays d'Afrique. Des jeunes, des moins jeunes et puis des anciens. Quelle richesse. Voyez, on dit chez nous que le nouveau fil s'attache sur l'ancien. Voyez, les aînés ont toute leur place parce qu'ils sont le signe de la fidélité pour les plus jeunes. Moi, je suis toujours dans l'admiration quand je vois un prêtre qui fête 60 ans de sacerdoce, hein, 50 ans de sacerdoce, je me dis, quelle fidélité. Et puis moi, du haut de mes petits 20 ans de sacerdoce, je ne sais même pas où je serai dans 5 ans, si je continuerai d'être prêtre. Voyez? Mais la fidélité des anciens me rappelle que c'est jusqu'au bout, que le oui, le premier oui, il est jusqu'au bout. Et on est heureux de rencontrer ici en France des prêtres qui ont cette expérience, ce parcours si riche et divers. Alors la croissance personnelle et spirituelle. Ma présence ici me fait grandir dans la foi, dans un contexte différent. Donc je développe une nouvelle manière de comprendre la mission. Parce que sorti de son quant à soi, de son espace pour découvrir ce qui se vit ailleurs, nous enrichit personnellement. Et puis être témoin de que l'évangile dépasse les cultures, que finalement un chrétien, un prêtre, ne doit pas être entre guillemets un étranger dans l'église. On doit l'appeler missionnaire. Et je vous dis une chose, hein. Les prêtres qui étaient venus là chez nous hein, au 19e siècle, au 20e siècle, on ne les appelait pas les étrangers, hein. Jamais. On les appelait des missionnaires. Mais nous, on nous appelle des étrangers, les prêtres étrangers ou les prêtres venus d'ailleurs. Mais chacun d'entre nous, on vient de quelque part qui est un ailleurs. Hmm? Chez nous, dans ma langue maternelle, Amenjo, l'étranger, ça veut dire la personne qu'on désire, qu'on a désiré. J'ai l'impression quelquefois qu'ici, l'étranger, c'est pas la personne qu'on désire. Ce n'est pas la personne désirée. Nous, les prêtres missionnaires, nous sommes un peu comme les migrants promasques. Voilà, promasques. Vous savez, il y a les iPhone promasques. Nous, nous sommes les migrants promasques. Parce qu'on peut faire quelques baptêmes, on peut célébrer des sacrements, on peut célébrer des obsèques pour des parents. Ils sont un peu utiles. Et puis, il y a d'autres migrants utiles aussi, hein, qui apportent. Et puis, il y a ceux dont on ne veut pas. Bref. Voilà un peu ce qui enrichit mon expérience dans cette église que je continue de redécouvrir. Mais dans cette église, il y a aussi ses forces. Et j'en évoque quelques-unes. Il y a un héritage spirituel et culturel profond quand je visite vos cathédrales. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais à la cathédrale de la Majeure à Marseille, j'étais dans l'émerveillement. Quand on va à la basilique, grand émerveillement. Et puis, se convaincre que ce sont des hommes et des femmes de foi qui ont bâti cela, qui ont donné de leur temps, de leur énergie. On est dans l'admiration de tous. Et puis voilà, il y a toutes ces richesses-là, ces cathédrales. Et puis, vous avez des saints, beaucoup de saints. Beaucoup de saints en France. Il y en a tellement. Hein? Et puis, tous ces lieux de visitation ou d'apparition de la Vierge des saints. Vous voyez? C'est une richesse immense. Et à côté de cela, il y a certains qui vous disent, oh, mais vous croyez vraiment que la Vierge est apparue à Lourdes? Quand moi je sais que des chrétiens africains payent 3000 euros, 4000 euros pour venir seulement pour 3 jours à Lourdes et puis repartir. Et nous, nous sommes à côté de ces trésors-là. Et puis quand on nous parle du chapelet à Lourdes, j'ai pas besoin. Voilà. Et puis la tradition qui est une richesse, hein. La tradition qui est une richesse. Richesse intellectuelle et théologique. J'ai dit tout à l'heure que vous avez de grands théologiens. de très grands théologiens, et puis on est heureux de venir se former là, on est heureux de venir nous nourrir à la source de ces grands théologiens. Vous en connaissez, hein. J'ai parlé tout à l'heure de Yves Conga, de Marie-Dominique Chenu, de Christophe Théobald, et vous savez, tous ces théologiens qui essaient de conceptualiser la foi. Parce que la foi a besoin aussi d'être conceptualisée. Hein. Ce n'est pas seulement de l'ordre de la rationalisation, tout ça, mais on a besoin de cela. Sinon, on va dans tous les sens. On va dans tous les sens. On rend grâce au Seigneur pour ceux-là qui réfléchissent, qui cogitent, qui essaient de mettre des concepts sur les mots de la foi. Voilà, la présence de mouvements spirituels vivants, communautés nouvelles, Dieu sait combien il y en a, forte implication de nombreux laïcs engagés. Vous voyez, ce que vous faites ici entre dans ce sens-là, de laïcs engagés. Il y a des services d'église qui essaient de dynamiser, de donner la foi, de nourrir. On se forme des conférences par-ci, par-là. Tout cela pour nourrir la foi. C'est une richesse. Hein? C'est une richesse. Hein? Richesse intellectuelle. Hein? Forte implication de nombreux laïcs engagés. On a des laïcs théologiens, théologiennes, tout ça, c'est une richesse. Il y a seulement une vingtaine d'années, hein, je dis une vingtaine d'années dans certains pays d'Afrique, qu'on a commencé à avoir des laïcs docteurs en théologie. Et quand une religieuse fait une thèse de doctorat, ben, elle est sur la toile, elle est sur les réseaux sociaux, hein. On acclame, on rend grâce au Seigneur, on dit voilà une religieuse qui a fait une thèse de doctorat en droit civil, en droit canonique, en droit. Il y a longtemps que vous avez passé cette étape-là. Voilà ouverture au dialogue. Ouverture au dialogue interreligieux et culturel. Et puis j'en viens aux faiblesses et aux défis. Il y a quelques faiblesses quand même. Et il faut les noter. Il nous faut passer ici d'une foi d'habitude à une foi de conviction. Foi d'habitude à une foi de conviction. La foi d'habitude, c'est, oh, les parents ont fait ça, nos grands-parents ont fait ceci, mes parents ont fait, on demande le baptême parce que, sans conviction, hein. On baptise nos petits-enfants simplement parce que nous, on a été baptisés. Et puis quand les petits-enfants n'ont pas été baptisés, on est malheureux. La notion de la transmission qui se perd de plus en plus. On n'ose pas parler de la foi avec les mots de la foi. Je vous assure, quelquefois, ça me choque. Hein? Ça me choque quand vous voyez des parents qui reçoivent les enfants à Noël et parce que les enfants sont là, les parents disent « Non, non, je n'irai pas à la messe parce que je reçois mes enfants. » Je ne juge pas. Mais là, il y a quelque chose qui va pas là. Parce que je reçois mes enfants, j'ai 3 jours avec eux, 4 jours, mais je mets la messe de côté. Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils disaient? On a parlé tout à l'heure de ce qui ne pouvait pas manquer la messe. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Mais nous, on range là. Ça passe après. Forte baisse de la pratique religieuse. Perte de repères chrétiens dans la société. On n'ose pas aller jusqu'au bout. Vous voyez? Là, la semaine prochaine, les lois bioéthiques vont passer au Sénat. La voix des chrétiens catholiques, là. On ne vous entend même pas. On ne nous entend pas. Nous sommes comme des poissons morts qui vont dans le sens de l'eau. Parce que voilà, il y a une situation, j'ai un parent malade, donc attention, si la loi ne passe pas, je serai obligé de... Et puis voilà. Les convictions fortes. L'exemple que nous ont donné, parce que le pape France, le pape Jean-Paul II, la vie jusqu'au bout, hein, même au cœur de la souffrance, hein, on a vu le pape Jean-Paul II, hein, les derniers jours du pape Jean-Paul II, hein, témoignage de foi, c'est vrai, vous allez dire que nous ne sommes pas pape, hein, lui le pape. Hein. On a vu le pape François, hein, jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Voilà, donc une faiblesse aussi, manque de vocation, peu de prêtres locaux. Mais tout part de la manière dont on parle du prêtre aujourd'hui dans nos églises en France. Ben, moi, je suis un garçon de 12, 13, 14 ans. Si j'entends la manière dont les parents, les hommes et les femmes d'aujourd'hui parlent du prêtre, je ne sais pas si j'aurais envie de devenir prêtre. On parle du prêtre comme d'un homme épuisé, fatigué, surchargé, et puis, il ne gagne rien, hein. Même pas le SMIG, hein. C'est attirant, ça. Un homme seul dans son presbytère, quelquefois vous le voyez célébrer, même le jour de Pâques, seul, il n'y a même pas un enfant de cœur à côté. Il fait pitié. Ça peut donner envie, là. Et puis, voilà, il y a le scandale des abus sexuels. On a envie d'être prêtre. Et puis le discours. Oui, il y a des brebis galeuses dans la troupe. Ce ne sont pas tous les prêtres. Ils sont des abuseurs. Il faut regarder les lumières, les témoins parmi eux. Mais on met tout le monde dans le lot. Oh, les prêtres, ce sont... Non. Oui. On est dans... Oui, le clergé est vieillissant, évidemment. Après la distance culturelle, difficulté d'adaptation pour certains prêtres venus d'ailleurs étrangers, langue, mentalité, rythme pastoral, on a du mal, on ne les comprend pas. Ah, mais il pense qu'il est en Afrique ici. Alors que quand les missionnaires venaient chez nous, on ne leur disait pas, mais vous pensez que vous êtes en Europe ici, hein? Ils étaient accueillis, hein, et bien accueillis, hein. Ils n'étaient pas des vicaires, ils n'étaient pas... C'était des curés, hein, tout ça. Même en 1905, hein. Tous les évêques, c'était des Français, hein, jusqu'il y a 1960, hein, dans beaucoup d'autres pays. Hein. Difficulté d'adaptation pour certains prêtres, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la langue. La langue française, c'est votre langue. Vous avez été nourri au biberon de votre langue. Mais nous, on apprend français. N'attendez pas du père Sylvain qui parle aussi bien français que quelqu'un qui est né là-dedans. Moi, je peux vous parler un peu de fond, je peux vous parler un peu de Minan, vous ne comprenez rien, vous ne comprendrez rien dans cela. Et c'est une richesse. Quand je vous dis « Nyampeto Yesu Christo be manje ma ou atabe lonlon, ou bon koukebe de ka one no kumitekbe », j'ai dit la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. C'est ce que j'ai dit dans ma langue maternelle. Français, je l'ai appris à l'école. Vous étiez au buberon du français. Mon père, ma mère, n'étaient pas suffisamment instruits pour me nourrir au biberon du français. Et quand vous venez à la messe pour écouter un prêtre entre guillemets venu d'ailleurs, au lieu d'écouter la parole de Dieu qu'il a à vous donner, on cherche à compter les fautes qu'il a faites. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui ont quitté des églises parce que oh, le prêtre il parle pas bien français, on le comprend pas. Ils ont quitté des églises. Hein? Ça arrive, non? Voilà. Donc on a évoqué l'impact des scandales, hein, la crise de confiance, et puis le désengagement progressif de certains fidèles. Et puis le dernier point que j'ai noté, qui pour moi est le mal des mots, c'est le relativisme spirituel en France. Et cela, de plus en plus. Le mal des mots, c'est le relativisme spirituel. Benoît XVI le disait déjà. Le relativisme spirituel représente l'un des plus grands dangers pour l'Église en Europe occidentale. Je l'ai rappelé dimanche dernier, hein, à Sainte-Thérèse. Il dénonçait ce qu'il appelait la dictature du relativisme, c'est-à-dire une mentalité où plus rien n'est considéré comme vérité définitive, où chacun construit sa propre religion selon ses opinions ou ses émotions. Cette dérive fragilise profondément la foi chrétienne, car elle affaiblit l'annonce que Jésus-Christ est l'unique sauveur, l'unique vérité, et l'unique vie. Dans cette logique, la foi risque de devenir une simple option culturelle ou morale parmi tant d'autres, au lieu d'être une adhésion totale au Christ. Et pour l'Église de France, nous voyons plusieurs conséquences liées à cela. On a évoqué certaines conséquences, affaiblissement de la transmission doctrinale, perte du sens missionnaire, confusion entre dialogue avec le monde et adaptation au monde, diminution de la pratique sacramentelle, réduction du christianisme à des valeurs humanitaires sans référence claire à la vérité révélée. L'Église ne peut pas se contenter de suivre les courants culturels dominants, mais doit rester fidèle à l'Évangile dans son intégralité. Lorsque la vérité du Christ est relativisée, l'identité chrétienne s'érode. Pour les catholiques de France, nous sommes invités à une nouvelle évangélisation fondée sur une foi solide, fondée sur une liturgie vivante, un témoignage courageux, une fidélité claire au Christ. Et pour terminer, la dernière partie, donc, c'est la présence de prêtres missionnaires africains en France, un échange d'église à église, un rendez-vous du donner et du recevoir. Je m'appuie sur la parabole de la guérison du lépreux pour partager cette expérience, parce qu'il me semble que la parabole du lépreux samaritain guéri peut se lire comme une parabole de l'histoire missionnaire. C'est en Luc 17, 11 à 19. Vous connaissez l'histoire. Jésus guérit 10 lépreux à distance. Il leur demande d'aller se faire voir au prêtre. Et sur le chemin, il y a un qui sent qu'il est vraiment guéri et il vient rendre grâce. Voyons comment cette parabole peut nous aider à voir, à comprendre l'histoire missionnaire. Le lépreux samaritain revient remercier Jésus. Comment ne pas relier son retour vers Dieu au retour missionnaire de prêtres venus de pays autrefois évangélisés? Venir ou revenir, c'est reconnaître la source du don. Moi, j'étais quelque part chez moi là. Le premier religieux missionnaire que j'ai rencontré, il venait du diocèse de Bayonne. Le premier que j'ai rencontré, il venait du diocèse de Bayonne. Il m'a baptisé, j'étais tout bébé, en 1975, vous voyez, il y a 50 ans. Et quand je me pose la question de vocation, je retrouve un autre missionnaire venu du diocèse de Bayonne qui était mon curé à Jacquesville, au bord de la mer, en Côte d'Ivoire. Et quand je lui parle de mon désir de devenir prêtre, il me dit, mais tiens, j'ai un ami qui vient de temps en temps chez moi ici. Il était basque, missionnaire, peut-être que tu peux prendre contact avec lui. Voilà comment je suis devenu religieux du Sacré-Cœur de Jésus de Bethany. Je ne savais rien de ce qu'était la vie religieuse. Je voulais simplement devenir prêtre. Papa, je veux devenir prêtre. Et papa présente la photo de mon baptême en 75 au prêtre qui m'a baptisé 12, 13 ans auparavant. Donc, venir ou revenir, c'est reconnaître la source du don. Le lépreux samaritain revient vers celui qui lui a donné la vie. Pendant des siècles, en effet, des prêtres religieux et laïcs sont partis d'Europe, souvent de France, pour annoncer l'évangile en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Proche-Orient. Aujourd'hui, l'histoire s'inverse. Des prêtres venus de ces pays reviennent en mission en France, dans une église. Parfois fatigués, hein? Je mets le mot entre guillemets. Ce mouvement n'est pas une simple compensation numérique du manque de prêtres. Il est un signe spirituel. C'est le retour du don. Les églises nées de la mission viennent rendre grâce et redonner la foi à celles qui la leur ont transmise. Comme les lépreux, elles reconnaissent que ce qu'elles ont reçu est un trésor qui ne leur appartient pas. Elles reviennent non pour payer une dette, mais pour partager la vie reçue. C'est un retour de gratitude, mais aussi de fécondité. La mission devient alors cercle de communion et non mouvement à sens unique. Un retour du lépreux révèle un retournement intérieur. Il n'est plus seulement bénéficiaire, mais il devient témoin. C'est exactement le sens de ce que vivent aujourd'hui des prêtres et missionnaires venus d'autres continents. Ils ne reviennent pas comme assistants, mais comme frères dans la même mission, porteurs d'une foi jeune, vivante, reconnaissante. Le lépreux samaritain revient pour adorer. Il reconnaît en Jésus la source de la vie. Ainsi, les prêtres venus d'ailleurs qui reviennent en France sont eux aussi signes d'un Dieu qui agit à travers des détours de l'histoire. Ils rappellent à l'Église tout entière que la foi n'est jamais une propriété, mais une grâce à faire circuler. Leur présence est une guérison spirituelle. Ils redonnent à l'Église un visage universel et ravivent la joie d'annoncer l'Évangile. La parabole du lépreux guéri est bien une parabole de l'histoire missionnaire. Le don de la foi, quand il est accueilli avec reconnaissance, revient féconder celui qui l'a donné. Ainsi, les prêtres missionnaires venus d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine sont les lépreux guéris qui reviennent glorifier Dieu au milieu de nous. Ils ne viennent pas rendre la mission, ils viennent achever le cercle de la grâce. Leur présence nous invite à redécouvrir la joie du don et à reconnaître que la mission ne finit jamais. Elle revient, se transforme et renouvelle toute l'Église. Nous sommes tous des envoyés, des accueillants. Le missionnaire d'hier devient le missionné d'aujourd'hui. Et dans ce retour, c'est encore Dieu lui-même qui continue son œuvre. Et pour ne pas conclure, la foi chrétienne en Afrique donc est un trésor vivant. Elle porte une espérance immense pour l'Église universelle. C'est la finale de Matthieu 28, 19 qui nous rappelle « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Je crois que c'est pour répondre à cette injonction du Christ que je suis là, au milieu de vous. Je vous remercie.
Vous venez de suivre La foi chrétienne en Afrique de l'Ouest, une conférence du père Sylvain Dansou, enregistrée à la Bibliothèque de Culture Religieuse de Pau. C'était le 6 mai dernier.